I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est une news que,
effectivement, j'avais vue il y a quelques semaines. On en a parlé. Et voilà, on peut pas passer à côté parce que ça nous donne l'occasion de parler de plein de sujets hyper intéressants autour de la messagerie, des serveurs, du reverse engineering. Bref, il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter. C'est l'histoire d'un gamin. Un gamin de 16 ans au lycée et à temps partiel chez McDo qui a rendu fou Apple en quelques jours. Il a réussi à faire ce que personne n'avait jamais réussi, rétro-ingénierer l'application iMessage. Depuis des années, il y a un nombre de tentatives pour essayer de percer les secrets en fait, des serveurs d'Apple, d'iMessage, pour utiliser la messagerie sur des appareils qui ne proviennent pas d'Apple, sur Android notamment. Ce qui est interdit, évidemment. C'est un rêve depuis des années de unifier toutes nos conversations sur des services, des applis unifiés. Peut-être que vous avez déjà essayé différents services, des applis comme ça qui vous permettraient de regrouper WhatsApp, Facebook, tous ces trucs dont on a marre, on ne sait plus, on ne s'y retrouve plus. On rêve, on a un peu ce fantasme de l'appli qui réunirait tout au sein d'une même interface épurée, clean. Pour atteindre ce rêve, il faut comprendre comment chaque messagerie, Instagram, Messenger, WhatsApp, fonctionne. Comment leur serveur fonctionne. Et parmi elles, Apple pose toujours problème depuis des années. Ils sont absolument intraitables et préfèrent mourir que de laisser accès au serveur de iMessage. Et là, en quelques jours, Apple, furieux, a dû prendre des mesures pour contrer la découverte de ce jeune homme. Et ça a foutu un énorme bordel dans la sphère tech.
Et on va revenir dessus. Et pour ça, on va refaire un peu l'historique, de l'histoire de toutes ces applications de messagerie. Alors, pas de chaque application, mais de comment ça s'est construit. Parce que, en fait, depuis 5-10 ans, on a cumulé énormément d'applications de messagerie. Encore plus si on prend toutes les applications et les réseaux sociaux qui incluent une messagerie dedans. Donc, on a du Instagram, du Snapchat, du LinkedIn, du Slack pour l'entreprise, du Discord, du Signal, ou évidemment du WhatsApp et du iMessage, évidemment. Et ça fait des années que des services essayent de trouver un moyen, un peu l'application parfaite, le rêve de toute personne qui s'intéresse à la productivité, d'unifier toutes ces conversations en un seul et même endroit. Et alors, il y a une seconde solution, c'est de mettre en photo de profil une photo « Allez sur Signal ».
Moi sur Signal.
T'avais pas fait cette technique d'ailleurs.
J'ai déjà fait ça, oui.
Mais bon, c'est un peu un hack. Alors peut-être qu'il y en a qui se souviennent, il y a, je dirais 5-7 ans à peu près, à moins de 10 ans, que des premiers services ont essayé de trouver un moyen. Est-ce que vous vous souvenez de Rambox? Je ne sais pas si ça te parle. Non, Rambox ou Franz?
Non,
peut-être dans le chat, ça parle à des gens. Rambox qui est devenu propriétaire et du coup qui a eu un successeur open source qui s'appelle Amsket aujourd'hui. Il y avait Station aussi. Bref, c'était des applications qui, en fait, regroupaient dans des onglets chaque messagerie. C'est-à-dire que on prend le Instagram, hop, on le met dans un onglet, on prend WhatsApp, on le met dans un onglet, et en fait c'est possible parce que la plupart de ces messageries ont un service qui fonctionne sur le web, c'est pas que des applications téléphone, souvent on peut y accéder sur le web, et en fait grâce à Electron, qui permet d'embarquer, qui permet en fait de regrouper tous les sites en un seul endroit, ça permet en fait de, à partir d'un site web, en JS, l'intégrer à une application de bureau, et plus que ce soit sur un navigateur internet. Ouais.
C'est quand même joli, je trouve. C'est-à-dire que,
c'est très joli.
C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire tout leur maximum sans vraiment interférer avec le service, sans créer une nouvelle interface. Ils ont quand même réussi quelque chose, à savoir regrouper vraiment toutes tes applications comme ça avec un seul petit clic pour que tu aies au moins plus de 10 000 onglets, mais une appli desktop qui vient réunir Gmail, Telegram, Discord.
Oui, Gmail, j'ai pas dit Gmail.
Et donc, effectivement, moi, je sais que j'ai déjà essayé ce genre d'appli, mais bon, c'est pas non plus dingue et ça ressemble quand même à une sorte de navigateur au final. Donc, ça reste un peu décevant.
C'est ça. Moi aussi, j'ai pas mal utilisé ça parce que j'adorais. C'est vrai que c'est super bien fait. En un clic, t'installes une nouvelle messagerie, tu mets tes logins. Et en fait, c'est comme si tu utilisais leur service, mais dans un autre endroit. Et ça marche bien, mais c'est lourd. C'est, y a, évidemment, si ceux qui connaissent Electron, en fait, ça embarque un Chromium. Donc, en fait, c'est comme si on avait un deuxième navigateur d'ouvert. Ça multiplié par toutes les applications, parce qu'évidemment, plein d'applications utilisent Electron. On peut citer Discord, Spotify, Slack, même l'app native. Bref, ça fait qu'au final, on se retrouve avec 10 Chromium sur notre ordinateur. Et
c'est,
tout ça...
C'est une usine à gaz.
Ça devient une usine à gaz. Alors même si maintenant, on a plein de RAM. Bon, c'est joli, mais c'est pas ultra pratique. Et puis, il faut quand même aller d'onglet en onglet. Donc, c'est-à-dire que t'as pas une inbox unifiée avec tous tes messages dedans.
J'allais dire, en fait, le fait de devoir quand même cliquer de façon volontaire sur chaque...
Mais c'est un enfer. Tu vois une petite bulle où tu sais quelle partie a un
ça
message.
Ça prend encore plus de temps.
Ouais, c'est vrai.
C'est comme sur le téléphone, en fait.
Ouais.
Ça a déjà...
Et ça fait en partie du fait, ça fait partie du fait que j'ai arrêté d'utiliser ce genre d'application parce qu'en fait, ça devient toute l'application et tu fais tous tes onglets un par un.
Ouais.
Parce que t'as forcément des messages à droite à gauche et en fait, ce que tu pensais gagner en temps, tu le perds. Ça, c'était la première possibilité qui a honnêtement bien marché. C'est toujours disponible hein, s'il y en a qui veulent tester. La deuxième possibilité, un peu plus maligne, c'est de décorréler le front-end du back-end. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de prendre tout le service avec son interface graphique et de le mettre dans un onglet en particulier, c'est de s'affranchir de l'interface graphique et d'utiliser ces messageries via leur API. Et donc, pour dialoguer directement avec les serveurs d'une application, d'une messagerie, que ce soit Instagram, que ce soit Messenger, etc. Et dessus... Le service qui décide de faire ça et de centraliser tout va créer sa propre interface et du coup va faire en sorte que ça soit la même interface pour toutes les applications, pour que ça soit plus joli et plus pratique. C'est honnêtement moins lourd, plus malin, assez cohérent en termes d'expérience utilisateur. Et il y a une application bien connue que tu as utilisée qui a fait ça, qui s'appelle Text. Alors c'est payant, mais je sais que tu l'as utilisé gratuitement pendant pas mal de temps.
Ouais, je l'ai pas mal utilisé. Et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à préciser, c'est que c'est pas si évident ce concept, je pense, à expliquer pour les gens. C'est pas si évident que l'interface et le serveur soient deux choses totalement décorrélées. Je pense que toi, quand tu utilises Messenger ou WhatsApp ou des trucs comme ça, tu utilises Messenger ou WhatsApp. Tu réalises pas qu'en fait, l'interface que tu as sous tes yeux, c'est quelque chose qui est en local sur ton téléphone et qui a des requêtes qui discutent avec un serveur qui lui-même vit sa vie, entre guillemets. Et du coup, c'est un truc qu'on peut dire aux gens, c'est qu'il est possible de créer des interfaces alternatives en reproduisant exactement toutes ces requêtes. Alors, faut pas se tromper parce qu'on se fait flague, entre guillemets, par le serveur. Mais du point de vue du serveur, c'est possible de entièrement répliquer le comportement de l'application Instagram ou Messenger, mais en changeant l'interface. Et c'est exactement ça qu'utilisent des applis comme Text, qui passent un temps fou à observer et comprendre comment marche le serveur. Donc, quel type de protocole ils utilisent pour dire... Il y a un nouveau message ou comment ils encodent le fait qu'il y a une pièce jointe. Bref, il faut comprendre tout ça dans toute sa complexité, l'authentification, etc. Pour après les interconnecter et faire une sorte de standard universel et enfin créer une interface intuitive jolie par-dessus. Donc tout ça, c'est un travail titanesque qui n'a pas été fait pendant très très longtemps jusqu'à une des premières applis qui fait ça vraiment très très bien, c'est effectivement Text qui est sorti en alpha il y a genre un an, 6 mois à peu près.
Un peu plus, non ?
Un peu plus, mais en fait, pendant très longtemps, il y avait très peu de services, c'était archi buggé, et donc vraiment, ça a mis beaucoup de temps à se stabiliser tellement le travail est gargantuesque et tellement personne veut faire ça, en fait, vraiment, c'est infâme comme job. Et jusqu'à arriver à la version actuelle, qui honnêtement est assez incroyable. Le seul problème, c'est que du coup, c'est beaucoup de travail, et du coup, c'est payant, et payer 30 balles par mois pour optimiser ta productivité de messagerie, bah voilà, c'est quand même pas donné. Faut vraiment.
30 balles par mois maintenant.
Je pense
que ça a baissé.
En dollars, ça dépend. Mais
ok.
On vérifiera. Mais globalement, si t'es vraiment un ouf de la productivité, tu seras content de les payer. Mais pour le commun des mortels, ça fait un peu chier. Tout ça pour dire que ça reste le meilleur de ce qui est possible actuellement où tu as accès à toutes tes grandes messageries dans une interface type macOS native, ce qui est le mieux que tu puisses rêver honnêtement en termes d'expérience.
Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que tu viens de raconter, et n'hésite pas à ajouter ton expérience ou à dire si je dis des bêtises, globalement, il y a des API qui sont publiques. Et donc ça, pour le coup, c'est documenté. Par exemple, Instagram a une API publique et tu peux faire quelques actions. Donc on pourrait dire que ces applications utilisent ces API publiques. Elles font ça pour toutes les API de chaque messagerie. C'est un peu fastidieux, mais ça se fait. Le problème, c'est que c'est souvent ces API publiques, en fait, sont souvent bridées. Typiquement sur Instagram, j'ai regardé, faut un compte professionnel, tu peux pas faire toutes les actions. Quand tu réponds à un message, c'est forcément un message de la messagerie générale et pas principale. En fait, c'est bridé. Pourquoi c'est bridé ? Parce que sinon, ça serait utilisé massivement par des bots. Alors, paradoxalement, ça n'évite pas les bots sur Instagram. Mais en tout cas, elles ne peuvent pas fournir des API publiques super...
puissantes.
L'inverse de restrictif, mais...
permissive.
Permissive, merci. Parce que, en fait, il y a un problème de bot derrière qui pourrait être compliqué. Et donc, en fait, si on veut utiliser les API publiques, ça devient trop complexe de les utiliser dans une application stable où on veut pas mal de features, pouvoir envoyer des messages, y répondre, etc. Et donc, la solution, c'est de passer par ce qu'on appelle des API privées. Encore une fois, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe. Mais le problème, quand elles sont privées, c'est qu'elles ne sont pas publiées par les éditeurs des messageries. Et en fait, c'est des API que des petits gens chez eux rétro-engineer. Donc, ils essayent de comprendre comment fonctionne une requête. Ils analysent les requêtes. Et parfois, pour le bien de la communauté, ils les publient sur GitHub et tout le monde peut s'en emparer. Parfois, c'est des gens comme Text qui vont le faire de leur côté. Ils vont rétro-engineer les API privées qui sont utilisées normalement que en interne, par Instagram, par Facebook, par Google, etc. Et donc, c'est de la rétro-engineering qu'on fait via des processus comme Man in the Middle. Ouais. Je sais que toi, t'en as fait en plus.
C'est un truc dont on a parlé régulièrement parce qu'effectivement, il y en a très souvent besoin dès que tu veux commencer à faire des bidouilles pas autorisées, en gros.
Ouais.
Effectivement, pour faire très simple, l'API publique, c'est une entreprise qui décide d'exposer à la communauté des parties de son serveur parce que c'est un intérêt, en général business, pour elle. Donc, par exemple, c'est possible d'accéder à des infos qui sont dans Google Maps sans passer par l'appli de Google Maps parce qu'il y a des partenaires et tout qui pourraient en profiter. De la même manière, Instagram, tu peux avoir des entreprises qui peuvent nécessiter d'interagir, de peut-être commenter des posts ou de répondre à certains messages très précis. Mais comme tu dis, le gros risque de ces API publiques, qui sont du coup documentées ou vraiment tout expliqué de A à Z, en général sur le site de Instagram, Facebook, etc., bah c'est qu'elles peuvent déclencher des nuées de bots infernales. Et sauf que, si on pourrait s'arrêter là, entre guillemets, se dire, bah, c'est bon, c'est impossible. Genre, par exemple, Discord, ils interdisent complètement d'envoyer des messages privés. C'est genre interdit dans les conditions d'utilisation. L'API de Discord, des bots, etc., qui est génial, n'intègre pas du tout la notion de message privé, tu vois, entre plusieurs comptes humains. Donc on pourrait dire, bah, c'est mort, du coup. Mais non. Puisque, comme je vous l'expliquais, il y a bien un moment, en fait, où l'application Discord officielle doit nécessairement discuter un moment avec le serveur sous la forme de requête. Ils n'ont pas le choix. Et du coup, quand on dit API privée, c'est de ça qu'on parle. C'est cette discussion intégrée, native, entre l'appli officielle Discord et le serveur Discord, qui en général, comme tu le disais, n'est pas documentée du tout et qu'il faut découvrir par soi-même. Alors, comment on fait pour découvrir ça ? Il y a plusieurs possibilités. Si c'est une page web, on peut simplement ouvrir l'inspecteur d'éléments. Et là, il y a un onglet Network. Alors, c'est hyper simple. Alors, c'est un des meilleurs outils du monde, vraiment. Mmh. Et on peut voir chaque requête, le temps qu'elle prend, qu'est-ce qui est envoyé, qu'est-ce qui est répondu. Bon, bah là, concrètement, il faut juste capter un peu comment ça marche, cliquer sur des boutons au hasard sur l'application et voir quelles requêtes correspondent. Bon, ça, c'est simple comme bonjour. Mais le problème, c'est que souvent, les applications de messagerie, elles ne sont pas disponibles en web ou alors, en réalité, elles communiquent avec une application mobile chiffré, où c'est en fait là que tout se passe. Et là, comme tu le disais, c'est une autre paire de manches, parce qu'il n'y a pas de manière simple d'inspecter des requêtes. Souvent, il va y avoir des protections supplémentaires, en fait, sur mobile. On va passer dans les détails, mais en gros, par exemple, du SSL pinning, donc c'est le fait de hard-coder un certificat dans l'application elle-même pour éviter qu'on crée un autre certificat qui nous permettrait de faire ce proxy pour observer le trafic. Bref, On passe les détails, mais retenez une chose, faire de l'inspection de trafic réseau sur mobile, c'est méga turbo chiant. Mais ça se fait. En vrai, en général, à force d'un peu de travail, ça se fait. Et c'est exactement en général ce que font les gens qui font des bots. C'est qu'ils observent comment marche Instagram pour faire des bots Instagram. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on veut reverse engineering des services comme celui de iMessage, par exemple.
Et c'est ce que tu as fait, je crois, sur
Uber Eats.
Un bot Uber Eats, sur Fruits également, ça avait été fait par l'équipe. Ça se fait. Et en fait, ce qui est un peu chiant, et c'est un peu comparable, tu me le disais l'autre jour, au scrapping, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un changement dans le fonctionnement interne de l'application, bah, tout pète et il faut tout refaire. Et moi, je sais que j'avais un ami qui avait j'avais un ami qui avait lancé un business qui était un business de scrapping. En gros, il offrait il référençait toutes les annonces locative de tous les sites, et donc du coup il faut scraper sur tous les sites, mais dès qu'il y en a un qui plante, et ben t'as tous tes utilisateurs qui viennent t'engueuler et tu passes la nuit à débugger. Bref, globalement, arriver à mettre au point une API privée qui fonctionne, c'est compliqué, mais ce qui est incroyable, c'est que il y a beau avoir toutes ces difficultés, dans la plupart des cas ça existe.
On y arrive.
On peut très bien utiliser l'API privée de YouTube, par exemple. Ouais. Elle est disponible. Ouais. C'est super pratique. Bref, ce qui est fou, c'est que c'est super dur, mais il y a toujours quelqu'un sur cette planète pour y arriver.
Exactement.
Et ça, c'est incroyable. Tout le monde, sauf Apple et iMessage. Et je trouve ça incroyable. Pourquoi c'est si compliqué pour le cas de Apple? Pourquoi Apple réussit là où Instagram échoue à mettre des barrières à l'entrée de son application et de ses API? Moi, je trouve ça dingue. Est-ce que vous avez des petites idées? Vous n'êtes pas obligé, franchement, là. Pourquoi Apple serait meilleur que les autres sur ce point?
Moi, de ce que j'ai quand même compris, mais je ne connais pas très bien le sujet, honnêtement, mais de ce que j'ai quand même compris, c'est qu'une des spécificités, d'Apple, c'est que comme ils maîtrisent toute la chaîne du hardware jusqu'à la moindre application qui est déployée sur leur machine, eh bien, ils peuvent mettre en place certaines sécurités. Je sais par exemple, ils ont, pour le déploiement de systèmes d'exploitation, de firmware sur leur device, sur iPhone, ils arrivent à faire des choses que beaucoup d'autres constructeurs n'arrivent pas, c'est-à-dire empêcher totalement le fait de revenir à une version antérieure de iOS, par exemple, de faire des jailbreaks, des trucs comme ça. Donc globalement, j'ai l'intuition que la maîtrise du hardware leur permet souvent d'avoir des chaînes de certificats, donc on va dire des chaînes de confiance qui sont très très dures à impersonnifier, comme on dirait, ou à casser, quoi. Mm. Je dirais que c'est un truc qui est peut-être comme ça.
Moi, franchement, j'aurais pas su.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Non, mais bien joué, tu as pété mon storytelling. Non, mais c'est pas loin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire que c'est Apple qui a un écosystème très fermé. Mais c'est vrai, Apple a vraiment un écosystème très fermé. Mais en fait, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, c'est pas les seuls. Il y a dans les GAFAM, c'est pas les seuls à être fermés, pas que dans les GAFAM. Mais en effet, en fait, là où ce que tu dis est complètement vrai, c'est que c'est l'un des rares à contrôler et le software et le hardware. Et donc, par exemple, pour authentifier un appareil, il veut que c'est sûr que c'est Apple. Et ben, si tu lui donnes pas un numéro de série qui est sorti de ses propres usines ou de ses sous-traitants, et ben, ça marchera pas. Et donc, en fait, c'est trop fort. Et c'est l'un des seuls, en tout cas, une des grosses sociétés à pouvoir faire ça. Si on réfléchit à Facebook, ils ne maîtrisent pas le hardware et le software. Si on réfléchit à Google, quasiment pas. Il y a les Pixel Phone, mais si tu veux que ça marche surtout Android, en fait, ça marche pas. Donc, en fait, c'est les seuls à, grâce à leur système verrouillé et surtout, en fait, c'est grâce au contrôle du hardware et software à ce que, comme tu l'as dit, contrôler toute la chaîne d'authentification entre un hardware et un software. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça existe quand même ailleurs, mais c'est des tellement plus petites sociétés. Moi, j'ai pensé, par exemple, à toutes ces petites sociétés qui font des objets connectés. Et souvent, en tout cas, il y a quelques années, là, il y a un nouveau protocole qui est sorti, Matter, ça va rebattre un peu les cartes, mais ils avaient tous leur protocole. Eh bien, il y avait les mêmes soucis. Tous les petits bidouilleurs qui achetaient une lampe de je sais pas quelle marque et qui voulaient la connecter sur une plateforme Ikea parce que eux c'est géré par Ikea, et ben ils galéraient. Il y avait des forums sur internet qui disaient comment on rétro-engineer cette API, j'y arrive pas. Et en fait c'est juste parce que souvent c'est des gens qui contrôlent et le hardware et le software. Sauf que souvent, ces trois bidouilleurs sur Internet qui cherchent à faire ça, ça n'a pas beaucoup d'impact. Oui. Le problème avec Apple, c'est qu'il y a des millions de devices, c'est pas trois Apple, c'est pas trois lampes connectées ou un peu plus qui sont dans le jeu, c'est des millions d'appareils, de devices Mac et iPhone qui sont concernés.
Et du coup, ça paraît impossible. Enfin, de ce que tu dis là,
ça paraît impossible
puisque tu vas pas inventer des numéros de série, tu vas pas transformer des puces hardware de ton Android en un iPhone, donc ça paraît impossible.
Ça paraît vraiment impossible.
Enfin, je pense que tu peux essayer de creuser quand même. Enfin, les numéros de série, tu peux les trouver.
Oui, alors dans ce cas.
Ouais.
Je sais pas.
Alors, il va y avoir une solution. On va parler d'une solution alternative et qui existait déjà il y a quelques temps parce qu'il y a une possibilité de bypass, mais qui est moyennement satisfaisante. Et il y a une possibilité incroyable. C'est là qu'intervient la société Beeper, dont on a entendu parler. Ces derniers jours. C'est une société qui a été créée en un peu moins de 3 ans par Eric Mijikowski. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec. Moi, c'est un mec que j'ai connu par son projet des Pebble Watch. C'était avant l'Apple Watch. Malheureusement, son business n'a pas réussi à survivre après la sortie de l'Apple Watch. Mais c'était des montres connectées avec un écran e-ink. Moi, je trouvais ça incroyable. J'étais tout jeune et c'était mon rêve d'en avoir une.
Et surtout que tu pouvais bidouiller, le système était censé être hyper ouvert.
Tout était open source et même les plans hardware, etc. Et tu pouvais faire des smart face et il y avait une communauté qui s'était créée. En fait, c'était pas un Kickstarter, mais.
Indiegogo. Oui, je crois que
un site de crowdfunding, quoi. Je crois que c'était un Kickstarter qui avait dépassé ses objectifs de dons à l'époque, de précommande, qui c'était absolument fou. Bref, c'est un projet dont on a entendu parler, je dirais, dans les années 2015 environ. Et donc là, depuis, il est passé par Y Combinator, donc le plus gros incubateur au monde. Et depuis 2-3 ans, il a créé Beeper, qui a un petit peu la même mission que Text. Sauf qu'eux, ils ont décidé d'utiliser pour ça un nouveau protocole de communication temps réel qui s'appelle Matrix. On a un peu entendu parler, peut-être, les gens qui s'intéressent à ça. C'est un protocole ouvert qui est très cool, honnêtement, et qui permet de faire de la communication temps réel assez décentralisée. Et en fait, ils s'attachent, eux, à créer un pont entre chaque messagerie déjà connue, WhatsApp, Instagram, etc., et Matrix. Et ils le postent en open source sur GitHub. Donc en fait, ça crée des ponts que d'autres gens pourront réutiliser. Tout ça pour en faire une application Beeper qui rassemble toutes les communications, on revient à ce désir d'unifier toutes les communications.
Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que du coup, Beeper, c'est un peu le lifting, donc l'interface jolie, par-dessus Matrix, ainsi que l'ensemble de leur bridge vers toutes les applis, en fait.
Ouais, alors Matrix ne leur appartient pas, il y a d'autres interfaces Elements, notamment, où tu peux installer un nœud Matrix, je crois qu'on dit. Je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, eux, ils ont vachement visé sur ce protocole et ils font une interface graphique et les ponts qui vont bien avec les bonnes messageries pour pouvoir l'utiliser.
Trop stylé.
C'est en bêta. Vous pouvez le tester. Ça bug un peu, honnêtement.
Mais du coup, c'est un peu comme un texte, mais genre open source
ou... Et pour l'instant, gratuit. Alors, je pense qu'ils vont quand même avoir un modèle économique, mais c'est open source.
Trop stylé.
En tout cas, je sais pas si toute l'application est open source, mais les ponts de communication sont open source.
Ok.
Pour l'instant, c'est gratuit, c'est en bêta, donc ça bug un peu et c'est sous invitation. Mais, peut-être que j'en ai d'ailleurs, je pourrais peut-être vous en filer. On arrive à notre problème. Tout ça, c'est très cool, hein. Ils font un taf incroyable, Beeper. Franchement, c'est une société très chouette. Toujours impossible de s'interconnecter avec iMessage.
Mais merde.
C'est incroyable. À cause de cette contrainte, il faut un matériel Apple pour l'utiliser. Et en fait, qui est lié à. En fait, dans la chaîne d'authentification d'un matériel Apple, il y a son numéro de série, son modèle et l'UUID du disque qui s'y sont utilisés. Les trois en même temps. Ça commence à être un peu chaud. Alors, il y avait une solution qu'utilisait Beeper jusque-là. Ces derniers mois et années, et d'autres services également, c'est de passer par un Mac. Et Text utilisait ça. C'est qu'en fait, un Mac, il peut utiliser iMessage. Et donc, du coup, si on a un Mac, il suffit de... Bah, par exemple, Text, ça s'utilise notamment sur un Mac. Il suffit d'entrer nos identifiants iMessage et ça fonctionne. Si on n'a pas de Mac, Beeper avait une solution à vous proposer.
Acheter un Mac.
Ils ont acheté des centaines de Mac mini, très exactement 700, pour en fait servir de relais au iMessage.
Ah, MDR. Super.
Et donc, ça fonctionnait comme ça. Ouais, non, mais ça n'a aucun sens.
Alors, quand tu réfléchis, vraiment le problème.
C'est complètement. C'est un peu con, même en termes de. Enfin, c'est con dans le
principe.
Dans le principe. Même en termes de sécurité, ton message, il est plus chiffré de bout en bout parce que quand il arrive sur le Mac, il est déchiffré.
Bah oui.
Donc, pour le renvoyer sur un autre appareil, tu peux le rechiffrer, mais. C'est un peu crado.
T'as un problème dans la confiance de ton message, quoi.
Voilà, exactement. Mais c'est fou que des gens comme Beeper se sont dit, la seule solution, c'est qu'on va acheter 700 Mac Mini pour servir de Mac de relais au message, iMessage. Du coup, un Mac pouvait authentifier plusieurs comptes iMessage, quand même. Hein, parce que sinon, ça aurait fait problème. Et c'est d'ailleurs la solution que le Nothing Phone 2, un téléphone sur Android qui est sorti il y a quelques mois, ils avaient promis une application qui marchait sur iMessage. Et en fait, ça marchait comme ça, via des Mac relais. Je crois que l'application a tenu 24 heures ou 48 heures parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Bref, c'est de la bidouille, c'est très cher. Et ça a semi-marche en fonction de si ton implémentation, elle est bonne.
Ça ne gère pas les pics aussi consommation.
Ouais, si jamais tout le monde se connecte en même temps.
Complètement. C'est pas scalable, du coup.
Oui, Beeper est encore assez confidentiel, mais si ça devient l'application que tout le monde utilise, il va y avoir un problème. Jusqu'à cet été, un beau jour d'été, où Eric Mijikowski, le CEO de Beeper, reçoit au début du mois d'août un message Discord du compte JJTech0130. Et ce message dit « J'ai réimplémenté iMessage. » Avec un lien vers un projet GitHub. Ce projet GitHub, c'est un POC écrit en Python pour utiliser iMessage depuis n'importe quel appareil. Donc là, Eric, il se dit « Bon, ça fait quand même 3 heures que je bosse sur le sujet. Petit rigolo. » Il essaye le projet. PTDR, ça marche. Genre, il est là en mode « Mais il n'en revient pas. »
Quoi ?
Derrière ce pseudo se cache en fait James Gill. Il a 16 ans. Et il a codé ça à côté du lycée, d'un temps partiel au McDo et de cours de robotique parce qu'il est passionné par la robotique. C'est la définition même du craquito, selon moi. Genre, personne n'a réussi à faire ce qu'il a fait en des années que iMessage existe. Et lui, il fait un POC Python qui fonctionne. Cette histoire me rend dingue.
C'est-à-dire que son système contourne complètement les protections d'Apple.
Pas besoin de Mac. Et tu peux vraiment interagir avec iMessage et les serveurs d'Apple qui gèrent iMessage.
Mais comment ?
Alors, j'y viens juste après, mais juste avant, quand même, il y a une petite histoire rigolote. Voyant l'opportunité, Eric lui a proposé de remplacer son temps partiel au McDo par un temps partiel chez Beeper. Et donc, en fait, il a un peu racheté la technologie. Et du coup, Beeper a implémenté cette technologie. Alors, comment il a fait ? En fait, il a commencé, comme tout le monde, à essayer de rétro-ingénérer iMessage. Et déjà, il a quand même appris des choses que potentiellement d'autres gens savaient, mais qui sont intéressantes, c'est que iMessage fonctionne grâce aux notifications push de l'iPhone. Ça s'appelle APN, Apple Push Notification. Et en fait, c'est un système qui est bidirectionnel. Honnêtement, je m'y attendais pas, je pensais que ça allait que dans un sens, vers ton iPhone. Et en fait, non, c'est un modèle qui va dans les deux sens, et iMessage repose entièrement sur cette brique Apple Push Notification.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur iMessage, en fait. C'est les serveurs de notifs d'Apple qui sont derrière les messages aussi, en fait.
Ouais, de ce que j'ai compris. Bon, ça change pas du tout au problème de ça va être plus simple à régler comme gros souci. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a constaté. Et c'est là que le move de génie intervient. En fait, enfin, selon moi, il s'est demandé, est-ce qu'il y a un autre service Apple qui fonctionne sur un autre appareil qui n'est pas d'Apple ? Et il a trouvé, il y a Apple Music sur Windows.
Ok.
Et du coup, le mec, en détente, il s'est dit, je vais rétro-ingénérer Apple Music sur Windows. Et peut-être que ça me donnera des briques pour pouvoir faire la même chose sur iMessage. Le mec a fait ça, déjà, pour avoir l'idée, ça me trouve. Et donc, il analyse tout le trafic qui passe dans l'application Apple Music sur Windows. Donc déjà, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais rétro-ingénérer un site web, ça se fait. Rétro-ingénérer une application, c'est déjà beaucoup plus complexe, surtout une application desktop.
Probablement que ce qu'il fait, c'est qu'il observe les requêtes réseau, à mon avis.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il rétro pas le...
Et donc du coup, en fait, il va voir comment Apple Music se connecte au serveur d'Apple sans du coup un UID, enfin sans un Apple ID, parce que ça reste un ordinateur sous Windows quoi. Et en fait, il va se dire, je vais appliquer ce raisonnement à iMessage, et je vous la fais très simple, ça va marcher. Globalement, ça va marcher. Il va réussir à obtenir les clés de chiffrement iMessage pour pouvoir communiquer avec les serveurs d'Apple. Donc voilà, il a découvert que le serveur d'activation, il s'appelait Albert chez Apple, et que le serveur de notification pour les iMessage, il s'appelait Madrid. Okay. Voilà, donc ça, c'est des requêtes qu'il a analysées, des gets et des posts. Et voilà, et je rentre pas plus dans le détail technique parce que honnêtement, j'ai pas tout compris et c'est quand même assez complexe. Mais il a fait ce POC et du coup, Beeper a pris ce projet, il se dit ok, on va l'implémenter. Donc eux, ils ont pris le POC, ils l'ont bien réimplémenté. Ils ont mis les features aussi, le pouvoir s'échanger des photos, des vidéos, pouvoir voir les trois petits points quand quelqu'un écrit. Tout ça, c'est du taf qu'a fait Beeper. Hein,
ah oui, j'avoue. Ah ben, on n'y pense pas. Ouais,
non, mais en vrai, il y a eu plusieurs. Je crois qu'il y a eu 2-3 mois de travail une fois qu'ils avaient le POC en Python et puis pour le mettre en production. Mais tout ça, oui, il faut refaire un iMessage quand même avec les fonctionnalités d'un iMessage.
Et là, c'est le moment où on se dit, c'est nickel.
C'est nickel.
Ça fait des années qu'on n'a pas iMessage dans les applis de ce genre-là. Personne n'y arrive. Un gamin craque le game. Apple en PLS.
Mais attends, au moment où ça fuite, genre Apple, ils peuvent changer quelque chose.
Alors, au moment où il a posté son... Ça s'appelle Pipuche, le POC en Python. Il ne s'est rien passé, parce que c'était en août, il me semble.
Ou peut-être c'est en août dernier, là ?
Ouais, en août dernier. Ouais. Par contre, il y a quelques jours, Beeper lance son nouveau service, Beeper Mini. C'est une application sous Android, qui est donc un iMessage pour Android, chose que Apple essaye de combattre depuis des années. Ils le sortent avec un magnifique billet de blog qui explique tout comment ils ont fait, qui explique l'histoire avec ce fameux James qui a 16 ans. D'ailleurs, il y a aussi un billet de blog.
Ça s'appelle vraiment littéralement comment Beeper Mini.
Ouais, bien sûr. Ah, et puis c'est quand même assez documenté. Il y a un lien vers le POC en Python, le Pipuche. En 3 jours, Apple va changer son système et shutdown Beeper Mini.
Et mais c'était sûr.
C'était sûr et en même temps oui et non, parce que ils ont affirmé il y a quelques jours ou quelques semaines qu'ils allaient implémenter RCS, qui est un peu le successeur des SMS que Google a développé pour Android et qui est un peu un iMessage like, sauf que c'est pas iMessage. Et je crois qu'ils ont été obligés par la Commission européenne de l'implémenter. Donc dans quelques mois, ils vont devoir être obligés de, en plus iMessage, implémenter RCS, qui est un protocole de communication bien plus sécurisé que le SMS. Donc on pourrait se dire, bon, ok, ils ont fait un message, mais de toute façon, tout le monde va en profiter de ces features dans quelques mois. Non, c'est beaucoup trop, marcher sur ces plates-bandes d'utiliser iMessage.
Pause, on remercie le raid de Graphic Art, merci beaucoup.
Ah, trop bien, merci Graphic Art.
Et toute petite correction également, le coût de l'abonnement pour texte c'est de $12.5 par mois quand tu prends l'abonnement à un an.
Et on lui avait demandé, on lui avait posé la question à Eric là, le CEO de Beeper, est-ce que il était confiant en postant tout ça et son application, qu'il n'allait pas se faire shutdown par Apple. Et avant que ça soit shutdown, Beeper Mini, et en fait, il disait que normalement, l'ingénierie inverse a des fins d'interopérabilité et protégée par le Digital Millennium Copyright Act, le fameux DMCA, dont on entend tant parler sur Twitch. Normalement, d'un point de vue légal, si c'est à des fins d'interopérabilité, tu as le droit de rétro-engénérer ça. Mais en fait, là, ils ont juste changé leur système en interne. Ils ont très bien su comment ils faisaient Beeper Mini et se sont dit, on va faire différemment. Allez.
Et du coup, a priori, c'est juste qu'ils ne vont pas se faire attaquer en justice, Beeper Mini. Mais
c'est ça.
Le service, on peut faire une croix dessus, quoi.
Mais c'est fou que...
Ça aurait duré 4 jours.
C'est fou que Apple réagisse en 3 jours. Et alors, aujourd'hui, depuis, Beeper Mini refonctionne. Pardon, Beeper Mini refonctionne, mais nécessite un Mac.
Ah oui.
Et un Mac à soi. Parce que du coup, en fait, la flotte des 1600 Mac Mini, elle s'est fait flag de ouf.
Ah ouais.
Bah, Apple, il veut se dire, ok, toutes les authentifications qui viennent de ces Macs, c'est ciao.
C'est ban.
Et donc, du coup, en fait, Beeper Mini existe toujours, mais il faut le connecter à un Mac. En tout cas, à l'heure où on enregistre cette émission, parce que ça bouge tous les 2-3 jours, il y a un article sur Beeper Mini en ce moment.
Ce qui est trop marrant, c'est que. En réalité, j'avais déjà entendu parler de ce genre d'histoire à une époque où le jailbreak était extrêmement populaire. Et je savais qu'il y avait
un développeur de tweak, donc d'applications modifiées, qui, pour faire fonctionner son service, avait en fait besoin d'un iPod Touch jailbreaké qui était branché au secteur et qui tournait chez lui non-stop. Et c'était, en fait, c'était ça le back-end d'un de ses services. Alors, je ne sais plus ce que faisait son service exactement, mais c'était un SaaS qui faisait je ne sais plus quoi vis-à-vis d'Apple, qui automatisait probablement des trucs avec les services d'Apple. Et tout son service, tu ne t'en rendais pas compte hein, quand tu l'utilisais, mais tout son service, en réalité, reposait sur un iPod Touch jailbreaké. si le truc avec plus de batterie, c'était terminé. Tu vois.
Rien que d'entendre iPod Touch jailbreaké, c'est un air de 2010 là, ou 2008. Pouah, qui est Cydia. J'ai dit le mot.
Mais je trouve ça génial.
iPod Touch is a pro, pardon. mais voilà. Et alors, j'ai une toute petite anecdote en plus. Texte a été racheté par Automatique. D'accord. Automatique, une boîte que vous ne connaissez pas comme ça, mais qui gère WordPress.
D'accord.
Ah. Et Automatique a investi dans Beeper.
D'accord, ok, c'est ok.
C'est fou la vie.
Je ne savais pas du tout.
Donc en fait, Automatique a des billes, possède Texte et en fait a des billes dans Beeper. Et moi, je suis assez curieux de voir comment va évoluer Beeper. Alors maintenant, Beeper, ils l'ont renommé Beeper Cloud parce que du coup, avec Beeper Mini, ça faisait deux projets différents. Mais voilà, Automatique, tout à fait.
N'hésitez pas à essayer tout ça et puis nous faire des debriefings.
Et puis, vous pouvez aller voir l'article de blog du gamin qui est un peu rigolo aussi. Tu sais, c'est marrant, il explique un peu ce qu'il fait. Mais c'est un jeune de 16 ans, quoi. Donc...
Mais du coup, voilà. Lui, est-ce que finalement, il travaille chez Beeper?
Ouais, il a un temps partiel chez Beeper. Aux dernières nouvelles, il a un temps partiel. Je ne sais pas à quel point il travaille sur l'implémentation de Beeper Mini ou si c'est plus une façon de récompenser son travail.
Moi, ce qui me fume quand même, c'est que...
D'avoir acheté la technologie. Si tu vas sur son GitHub, à la fin, il y a marqué « Le projet a été racheté », je crois qu'il le dit texto, par Beeper.
C'était dans le deal, quoi. Moi, ce qui me fume, c'est que tu as 16 ans, tu as des compétences pour faire ça, pour reverse le truc d'Apple... que personne n'avait jamais réussi avant. Mais tu bosses chez McDo.
Oui, effectivement.
Et à quel moment j'ai...
Et j'ai une anecdote là-dessus, c'est que du coup, ses parents, ils étaient quand même un peu inquiets. Parce que bah, je crois que son père, lui, travaille dans l'informatique, mais pas du tout sa mère. Et tu te dis, bah, d'où quelqu'un te propose un taf, hein, c'est un peu bizarre et tout. Et un argument pour le fait qu'ils aient accepté, parce qu'ils se disaient, ça va lui prendre du temps et tout, c'est... Bon, il arrivait à faire son temps partiel chez McDo. Il peut bien arriver à le faire chez Beeper. C'est à peu près la même chose. Genre le fait qu'il y a un temps partiel chez McDo a potentiellement joué dans le fait que ses parents acceptent qu'il travaille pour Beeper.
À 16 ans.
Je trouve ça incroyable.
Très stylé. Trop cool. Et ben, franchement, c'était hyper intéressant ce sujet. Ça m'a donné envie d'aller voir plus précisément à quel moment à quel moment Apple a merdé sur cette histoire d'authentification. Si certains veulent la regarder aussi et nous partager ça. Oui, il y a une vidéo de Léo Duff aussi, si ça vous intéresse.
Oui, complètement.
Il parle plutôt de la stratégie il est dur à dire celui-là, hein. D'interopérabilité.
Ouais, il parle pas mal.
Les bulles bleues et les bulles vertes.
Ouais, c'est ça, l'aspect social, bulle bleue, bulle verte. Et du fait qu'en fait, aux États-Unis, c'est bien, bien plus important que... Nous, on utilise beaucoup WhatsApp, Messenger, Signal, etc., et un message, on l'utilise, mais on s'en fout un peu. Ouais. Aux États-Unis, c'est vraiment très, très important, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde cherche des hacks pour avoir des bulles.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.